Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule, ce mois-ci avec Fabien Invain. Fabien, salut.
Salut.
Nous sommes également avec Xavier Globo. Salut Xavier.
Salut.
La pêche.
Mais oui, toujours.
Nous sommes avec Antoine Morgenthaler.
Bonjour, bonsoir.
Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de Ron Edwards qui s'appelle Spionneux. C'est toi, Fabien, qui ramène ce jeu dans ta sacoche. De quoi qu'il s'agit que Spionneux?
Donc, Spionneux est un jeu de 2007. Comme tu as dit, de Ron Edwards, qui est un des fondateurs de The Forge et du mouvement de l'indépendance anglophone en jeu de rôle. Dans Spionneur, on joue des espions à Berlin durant la guerre froide. Donc Berlin, pour rappel, est divisé entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Et au fur et à mesure que les décennies se déroulent, le mur de Berlin s'intensifie. Et puis différentes forces, et y compris des agences d'espionnage, sont présentes dans Berlin pour obtenir différentes infos. Et il y a beaucoup de tensions qui se jouent, y compris au niveau international, à ce point, cet endroit-là de l'histoire et enfin de l'espace et du temps. On joue des espions, donc les espions, c'est l'exact contraire de James Bond. C'est-à-dire que l'espion de Spionne, ça veut dire espion en allemand, hein, évidemment. L'espion de Spionne n'est pas... Déjà, il n'est pas super compétent comme James Bond. C'est pas un tueur, c'est pas un mec qui va courir dans la neige et tout et qui va sauter en parachute. C'est quelqu'un de parfaitement banal, dont le job est uniquement de récupérer des informations. Il récupère des informations grosso modo par deux moyens. Soit des moyens technologiques, c'est-à-dire qu'il va poser des caméras, des micros, il va récupérer des informations comme ça, il va faire des écoutes téléphoniques. Soit des moyens humains, c'est-à-dire qu'il va faire pression, il va manipuler, il va séduire des gens qui possèdent des informations intéressantes. Je dis manipuler, séduire, tout ça, mais ça peut être moins direct que ça. Ça peut être simplement la personne qui vous connaît au bar et puis depuis 10 ans boit des bières avec vous. Et,
vous lui racontez vos soucis dans la boîte et en fait, à travers ces soucis dans la boîte, vous lui fournissez des informations qui peuvent être précieuses.
Exactement. Ouais. Ensuite... Contrairement à James Bond, toujours, les personnages le plus souvent de la nationalité du pays pour lequel ils travaillent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on travaille pour les services secrets britanniques qu'on est britannique. D'accord ?
D'accord.
Et le plus souvent, la personne qui espionne appartient au pays qui est espionné, ou à la faction qui est espionnée.
Ouais.
D'accord. Et dernier point... La plupart du temps, les motivations des personnages ne sont pas des motivations abstraites, floues, comme dans James Bond. C'est des motivations très claires, qui peuvent être de l'argent, de la menace, des convictions politiques. Hein, je suis convaincu que le capitalisme, c'est la bonne solution, donc je vais aller espionner ces foutus soviets.
L'espion a des convictions personnelles.
Il peut avoir des convictions personnelles, ça peut être sa famille qui trempe dans l'histoire, ça peut être... Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on espionne.
D'accord.
Voilà. Alors, pour parler un peu plus du jeu, c'est un jeu qui est de Ron Edwards, et à force de lire ces jeux, je suis assez fan de la théorie de l'auteur en jeu de rôle, en tout cas je trouve que ça marche assez bien. Et pour Ron Edwards, on voit apparaître des constantes. Et une constante qui revient souvent chez Ron Edwards, c'est cette... enthousiasme, ce côté très fan pour un sujet qui va développer à fond.
Quoi. Ouais.
La moitié de Spionne, c'est des textes de synthèse qu'il a écrits sur qu'est-ce que c'est qu'un espion, quelles sont les grandes agences d'espionnage qui existent, à quoi ressemble l'histoire, notamment qu'est-ce que c'est un espion, c'est très très intéressant. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine, je trouve, de lire le bouquin, parce que c'est des histoires qui parfois dépassent complètement la fiction, avec tout un tas de trucs
la
forcément.
La réalité dépasse la fiction. On est...
Parce que c'est des personnages qui sont très excentriques, très bizarres, avec des vies souvent assez incroyables. Donc beaucoup restent nécessairement obscurs, y compris aujourd'hui. Et en termes de fiction, c'est un grand cri d'amour au roman de John le Carré. Alors j'en ai pas lu, mais il y a beaucoup d'espionnage justement dans cette la veine telle que je la décrivais jusque-là. Voilà.
Et c'est un jeu qui date de quand ?
2007.
2007, d'accord.
Donc 2007.
C'est la fin de la forge.
C'est le milieu de la forge.
Il y a l'âge d'or de la forge.
Ouais, ouais, c'est le milieu, okay. Le milieu de la forge. Alors, oui, ouais. C'est un jeu dans lequel. C'est un jeu aussi qui se prolonge à travers un site internet, c'est-à-dire qu'il y a un site internet sur lequel on peut voir Ron Edwards jouer à espionner avec des amis, et on peut soi-même donner aller poster des rapports de parties là-bas.
D'accord.
Ouais. Voilà. Donc il y avait tout un tas de trucs qu'il avait développé à ce moment-là. Je trouve que Ron Edwards a ce mérite de souvent pousser assez loin ses réflexions et puis son travail de publication et d'édition. Que dire d'autre ? Qu'est-ce qui vous intéresse encore ?
Le système de jeu.
Alors le système de jeu, c'est un système façon Perceval et Caradoc dans Camelot. C'est un peu.
Le système de résolution. Plus
le système de résolution, jeu. Voilà, mais, c'est simple.
T-shirt de 2, t-shirt de 3.
C'est-à-dire
que c'est incompréhensible.
C'est assez. En fait, on va préciser un peu plus. On joue de 2 à, je dirais, 5 joueurs, peut-être 6 joueurs. Il y a 2 espions. Il y a parmi les joueurs 2 joueurs qui chacun ont un espion, enfin sont le plaident pour l'espion, et les autres jouent ce qu'ils veulent. Ils jouent tout autour, ils jouent les personnages autour, et ils n'ont pas de mission particulière.
C'est un jeu sans meneur.
C'est un jeu sans meneur, tout à fait. Et en fait, les scènes passent de l'un à l'autre et chacun raconte une scène, alors éventuellement avec des apports des autres. Et va faire avancer l'histoire de chacun de ces 2 espions. Ces 2 espions sont créés en début de partie de façon très particulière, qui est que il y a 2 feuilles. Il y a une feuille qui correspond à la personnalité publique de l'espion, l'identité civile. Donc là, qu'est-ce qu'on avait ? On avait.
Alors voilà, ce qu'il faut dire, c'est que tout de suite,
ouais.
C'est que vous venez de terminer la partie, qu'on enregistre donc ce débrief. Donc il ne va pas y avoir de générique, de coupure, de machin. On passe directement au début de la partie. Alors,
dernier truc, avant qu'on se lance dans la fiction, puisque des gens l'ont demandé et que moi ça m'a quand même assez touché dans la partie, trigger warning, on va parler de violence et de violence physique et de viol. Donc si vous ne voulez pas en entendre parler, bah voilà.
Très bien.
Vous savez ce que c'est Spionner et puis vous pouvez aller en savoir plus sur le site d'Adept Press, la boîte de Ron Edwards.
Ok, très bien. Donc, les personnages, pour commencer, puisque tu parlais de la création de personnages, Fabien, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce niveau-là, Globo, Antoine,
on va présenter les personnages.
Et peut-être faire des commentaires sur la façon dont on s'est créé.
Alors déjà, les personnages, à la base, c'est des prétirés du livre qu'on choisit parmi plusieurs. Alors on peut en créer d'autres... dans l'absolu, en prenant comme exemple ce qu'il y a, mais là, en l'occurrence, nous, on avait le choix entre 7 ou 8
c'est ça.
Identités, et on en a choisi du coup une chacun. Alors moi, du coup, j'étais soit Jürgen Krause ou Renata Krause, j'ai choisi Jürgen d'être un homme, donc j'étais né à Hanovre, la nationalité, c'était la République fédérale d'Allemagne, et mon job, c'était étudiant à l'université libre. Et j'étais dans la catégorie jeune, parce qu'il y a 2 catégories de personnages, les plus anciens et les plus jeunes, selon si jamais ils sont assez âgés pour être des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ou avoir vécu cette époque-là. C'est un élément important parce qu'il y a beaucoup de factions d'espionnage pour lesquelles, au sein des espions, il y a des générations différentes qui, du coup, ont des points de vue différents sur les trucs.
Voilà, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que il y a 4 périodes. Donc, soit on joue dans les années 50, les années 60, 70 ou 80, et donc Berlin Ouest et les 7 grandes agences d'espionnage, c'est-à-dire le KGB, la CIA, les 2 agences d'espionnage et de contre-espionnage est-allemande, y compris la Stasi, et les 2 agences d'espionnage et de contre-espionnage ouest-allemande, et enfin le MI6, donc les services secrets britanniques, changent de décennie en décennie. Et une des particularités importantes des années 70, c'est qu'il y a un changement de génération. Et que la vieille garde, qui, selon les agences, avait différentes manières d'opérer, se retrouve confrontée à de nouvelles situations dans lesquelles elle n'est pas, et une nouvelle génération qui, elle aussi, a des approches différentes de ce que ça doit être l'espionnage.
Très bien.
Et par rapport à ce que tu décrivais sur le background historique, le jeu est très précis. Au début, on tire au hasard la décennie dans laquelle on va être, et ça change vraiment le contexte de chaque agence. Avant qu'on choisisse nos personnages, va changer.
Avant, voilà, c'est ça. Avant la création des personnages.
C'est ça. Donc le jeu détaille beaucoup à chaque fois le contexte historique par décennie pour qu'on ait une vision du du background. Quoi.
Et en tant que présentateur de l'histoire, tu dois présenter une grosse quantité d'informations au début, ce qui était un petit peu lénifiant, faut dire. Parce que on a joué après le repas.
On sortait de table, on était tous en train de roupiller.
On était tous en train de roupiller. Il fallait s'accrocher.
On a survécu. Mais c'était
Ministerium für Staatssicherheit. Alors comment ils sont eux?
Ah oui, parce qu'en plus tu traduisais plein de trucs en allemand. Jeu était en anglais et tu traduisais en français derrière. C'était
un peu particulier.
Et donc pour continuer sur les personnages, donc voilà, il y avait cette idée d'anciens et vieux. Ça précise une région de Berlin dans laquelle j'habite. Et après, j'avais plusieurs liens avec des personnages existants. Donc j'avais un lien avec mon père, un ancien professeur et un petit ami ou une petite amie américain ou américaine. Et donc on détaille ensuite le nom des personnages, on rajoute des éléments, on peut en rajouter des liens en plus, mais ce qui est appelé le supporting cast, c'est les personnages auxquels on est attaché dans notre vie officielle, quoi.
D'accord.
On va dire. Je propose que tu fasses aussi ton côté officiel et puis on fera ensuite tous les deux le.
Alors, ok. Moi, officiellement, je suis Andrus Alisievich. Je suis biélorusse, donc j'ai la double nationalité russe et biélorusse. Je suis un traiteur et dans le supporting cast, j'ai dans mes contacts un manager dans une ambassade et un bon ami allemand qui est poète.
Et là, c'était une femme, finalement.
Alors, en l'occurrence, mon contact à l'ambassade, le manager que je connais à l'ambassade et la personne qui m'embauche régulièement pour quand il y a des prestations culinaires à faire à l'ambassade, américaine bien sûr. Et mon amie allemande et poète est Anna Krause, qui est la sœur de Jürgen.
On a ensuite construit autant que possible avec les relations qu'on a déjà établies en tant que personnage et aussi les relations qu'on a du côté espion, des liens, des recoupements pour que tout ça... Créer des choses.
Et donc il n'y a pas de création de personnage au sens habituel du terme, c'est-à-dire que c'est plus qu'il y a des fiches de personnages qui ont été pré-créées et données dans le jeu avec un certain nombre d'informations.
Et les joueurs doivent ajouter le lien en fait.
Voilà,
relation map des personnages.
Il y a plusieurs éléments qui font que les joueurs personnalisent le personnage. Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je tiens juste mon micro.
Ok. Et le premier élément, c'est de combiner cette vie officielle avec une autre feuille qu'ils choisissent et qui est en principe indépendante, qui est la feuille de mission. C'est-à-dire, en haut, il y a l'agence pour laquelle tu travailles. Cette agence, elle a désigné pour toi un superviseur qui a lui-même ou elle-même une couverture et qui t'envoie espionner dans une cible qui souvent est une autre agence, ou bien ça peut être dans une autre partie, on avait des groupes d'extrême droite, un bar occupé par des groupes d'extrême droite, enfin des choses comme ça. Une cible, et elle te donne pour ça des informateurs et des moyens physiques pour mener ta mission à bien.
D'accord. Voilà.
Donc je laisse décrire un peu ce que vous aviez comme mission, et là on va voir que c'est assez rigolo.
C'est là que ça va être un peu drôle.
Pour qui tu travaillais, Antoine? Dis-nous tout.
Bah, du coup, dès l'instant où j'ai choisi de travailler pour la CIA, parce qu'on m'avait dit dans le contexte historique que la CIA à ce moment-là c'était le gros bordel et qu'il y avait des anciens qui étaient mal gérés, ça avait l'air rigolo et foireux, alors je suis parti là-dessus. Et aussi parce que comme Globo avait choisi.
Non mais t'imagines le KGB, juste si l'un de deux là, Globo, pourrait, les militaires, ou Antoine est vraiment un espion à la cellule, tu vois. Ils sont qui ont infiltré nos rangs. T'imagines ? Là, ils sont en train de jouer.
Non, mais à la cellule, on est tous agents doubles, on espionne d'autres gens pour la cellule.
Bien sûr, mais en plus.
Oh, Marine, qu'est-ce qu'il y a ? Il paraît qu'il y en a certains parmi nous qui bossent sur Cassius Anno.
C'est pas vrai.
Chut.
Poursuivons.
Donc bah, j'avais choisi la CIA.
Voilà, attaché à la CIA.
Ça te va bien, ça.
Donc j'étais lié à l'ambassade américaine. Celui qui gérait mon opération, c'était Jack Palsey. Un détail important, c'est que j'étais légalement entre guillemets lié à ça. Alors Fabien, tu peux nous rappeler c'est quoi la distinction entre légalement, que l'opération soit légale ou pas ?
Alors les personnages sont toujours soit légaux ou illégaux. Un espion légal, c'est que si tu te fais attraper ou si ton superviseur se fait attraper, le pays qui t'emploie va dire « Ok, c'est un des nôtres, on s'est fait prendre et on va le racheter. » Donc il y a peu de chances que tu te fasses abattre. En général, tu vas te faire échanger soit contre beaucoup d'argent, soit contre un autre espion, soit enfin bon, il y a des tractations qui se font. Mais enfin, tu vas passer un sale moment en tôle et ça va aller quoi. Si t'es un espion illégal, c'est que l'agence qui t'emploie va dire ben en fait on sait pas qui c'est et tout, et donc tu vas être traité simplement comme un traître à ton pays d'origine.
Toute connaissance et je sais plus ce que c'est le début. C'est ça, voilà. Impossible. En au cas où vous seriez pris ou tué, nous nierons tout lien avec.
Et là c'est t'es vraiment dans la mouise parce que c'est soit le peloton d'exécution, soit tu vas en tôle pour l'éternité quoi.
Ou le goulag pour les meilleurs.
Voilà.
C'est tellement cool. Pas le goulag, hein, mais donc, cette distinction légale-illégale.
Donc toi, tu travaillais pour la
La Morgenthaler.
Faut que j'arrête. Antoine, tu travaillais pour la CIA et voilà, tu devais espionner.
Et je devais en espionner. Ma cible, ma target, c'était le KGB dans l'ambassade soviétique.
Voilà.
Et autour de ça, on a différents moyens et autres, on parlera après, mais vas-y, sur toi d'abord.
D'accord. Et Globo, lui,
voilà,
travaillait pour
mon personnage, donc Andrus, travaillait pour le KGB.
Oh là là.
Et il avait été recruté par un professeur d'université dont il est amoureux, Tatiana Rodiovna Pnin.
Qui était dans mes contacts à moi, mon ancienne professeure. On a fait des liens un peu partout comme ça.
Évidemment. Ouais, ouais. Et ma target était la CIA et sa base d'opération à Berlin.
Donc
l'ambassade américaine.
Voilà, à Berlin-Est.
À Berlin-Est.
Donc vous étiez clairement opposé, ça, c'est du PVP cette
directement,
partie. Quoi.
Exactement.
Ouais, mais ça s'est
on a choisi ça dès le début.
Ça ne s'est pas développé comme du PVP. C'est-à-dire moi, à aucun moment, je me suis ouvertement opposé... au personnage, à l'autre d'Antoine. Personnage à la table, d'Antoine, quoi.
Alors, attends.
Parce que comme on est tous des espions, personne ne sait rien sur qui que ce soit d'autre, tu vois.
Mais vous avez choisi ça consciemment, c'est-à-dire...
Oui. Ouais. En partie, c'est-à-dire quoi.
Ouais, je
savais au début de la partie oui. Pour quelle organisation il travaillait.
Ouais. Oui, je ne me rappelle plus c'est le détail, je ne sais plus qui avait choisi en premier, mais l'autre s'était dit, ah bah tiens, ma cible, c'est le KGB, donc je vais prendre le KGB, je serai ta cible, ou inversement, je ne sais plus quel ordre, voilà. Mais on avait volontairement fait quelque chose d'opposé comme ça.
Et après, on a intermêlé nos contacts par rapport justement à nos employeurs, à nos personnages, aux PNJ auxquels on tient, on a essayé d'entremêler un peu ça. Quoi.
Donc en tant que joueur, vous êtes en ironie
oui.
Dramatique.
L'ironie dramatique,
en fait.
C'est un élément.
Ouais, pas mal, ouais.
Okay. Il y a eu beaucoup de scènes où on se croisait par hasard dans la rue en allant acheter son pain, en sachant pas.
On discutait de rien, des trucs comme si on était des gens normaux, en disant tiens, j'ai vu ta sœur, elle va bien. Enfin, moi, j'exagère un peu, mais c'était de ce niveau-là, quoi.
Donc, pour la création de personnage, premier point, la combinaison de la mission et l'identité du personnage. Deuxième point, les relations, puisque donc vous avez un certain nombre de relations, il fallait leur donner un nom. Et
leur donner corps, quoi, leur donner un peu de vie. Quoi.
Les entremêler les unes aux autres et aussi déterminer vos motivations en tant qu'espion.
C'est ça. Sur le côté espion et objectif, ce qu'on doit déterminer, c'est à la fois comment... Pour quelles raisons on travaille pour l'agence qui nous emploie, alors soit pour l'argent, soit par idéologie, soit pour plein de raisons. Et ça peut potentiellement être lié à des relations qu'on a, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moyens de pression sur des gens de notre famille ou des secrets, des trucs dans le genre. Et de la même façon, sur cette même fiche, on doit déterminer à notre tour les gens que nous, on utilise pour avoir des informations, les moyens de pression qu'on a sur eux ou les moyens de motivation. Donc il y a un peu une pyramide comme ça où on doit déterminer. Par exemple, pour être concret, moi,
ouais, je veux bien
ma cible, c'est l'ambassade soviétique. Ouais. Et les informateurs que j'ai là-bas, qui sont définis par ma fiche que j'ai tirée, c'était Bureaucratic Assistant et Safe House Preparator. D'accord. Donc, c'est deux individus qui sont là. Donc, quelqu'un qui prépare le bunker, une salle sécurisée de l'ambassade, et un assistant administratif. Et donc, je dois leur donner un nom, détailler un petit peu qui ils sont, et je dois commencer à détailler. Soit comment je suis en relation avec eux déjà, soit par exemple tout ce que Globo a fait, c'est que sa toute première scène, il a dans sa première scène établi le jouer comment cette relation naissait, Et donc à chaque fois, on va avoir soit des relations avec eux où ils savent qu'on est espions et on a des pactes avec eux, où on va leur mettre la pression. Toi, tu faisais chanter quelqu'un.
Oui.
Des différentes possibilités comme ça.
D'accord, ouais. Pas très bien où ça va pour l'instant.
Et ensuite, vous avez lié aussi les personnages qui étaient autour de vous. Donc, par exemple, toi, tu as un ancien professeur de l'Université Libre, Antoine. Et cet ancien professeur, vous avez décidé que c'était aussi le
professeur qui, moi, m'a embauché.
Le superviseur du KGB.
De ton opération.
Dont la couverture était d'être à l'Université Libre.
Oui.
Et donc, tu as choisi d'être... tu as choisi qu'il serait...
Et donc, moi, la motivation de mon personnage... à se lancer dans l'espionnage, c'est donc l'amour pour ce professeur-là. Un amour qui, vraisemblablement, lui est pas retourné, quoi.
Voilà.
D'accord, ok.
Et pour un autre exemple, toi, tu as établi comme un des moyens de pression de ton personnage sur une de tes cibles.
Voilà.
C'était...
Donc, moi, il se trouve que j'avais deux points d'entrée à la CIA. J'avais la femme de l'ambassadeur américain et... Un janitor, je sais plus ce que c'est déjà.
C'est concierge.
Un concierge. Et donc moi j'ai posé d'emblée que en fait j'ai fait chanter la femme de l'ambassadeur parce que j'avais des photos compromettantes qui avaient été faites avec ma bonne amie allemande Anna Kraus, qui est la sœur de. Donc j'ai des photos où il y a la sœur du personnage d'Antoine qui couche avec l'ambassadrice, et je vais voir l'ambassadrice en lui disant je vais tout révéler, si vous ne faites pas ce que je veux, filez-moi des infos, quoi.
D'accord, oui.
Et ça, moi, je le cale, j'y pense un peu quand on remplit les cases des motivations des uns et des autres, et j'attaque la première scène où je vais voir l'ambassadrice pendant un bal le 31 décembre, et où je lui montre les photos à cette occasion-là. Et moi, je suis à l'ambassade parce que je suis le traiteur de l'ambassade, quoi.
D'accord, ok.
Troisième... Ah oui, il y avait un autre truc sur ta motivation, c'était que...
Elle était idéologique.
Moi, de mon côté, c'était... il y avait un aspect idéologique où j'étais globalement assez convaincu par le rêve américain et par le potentiel de tout ça. Donc, a priori, j'étais volontairement associé à la CIA et aux opérations qu'il y avait. Et par ailleurs, en garantie supplémentaire, mon père avait eu des activités proches de certaines personnes qui auraient pu l'amener à Nuremberg. Des choses comme ça, c'était un peu...
Un ancien nazi.
Et donc, c'était un peu une pression supplémentaire de la CIA au cas où, en disant qu'ils avaient des éléments sur mon père. Mais en tout cas, au début, je le voyais comme un élément en plus qu'ils avaient comme fair play, mais je participais de bon gré, quoi.
D'accord. Oh mon Dieu, ce que c'est chou à suivre votre truc. Moi, je suis pas du tout familier de cet univers. Hein.
C'est une des difficultés du jeu, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on en prend plein la goule au départ, ouais. Entre les différentes organisations.
Moi, je suis en comprendre. J'ai essayé de prendre des notes.
Imagine-nous, c'est pareil.
Ok, d'accord, ça me rassure.
Parce que là, maintenant, on vous donne la description de tout ça avec le réseau des relations a priori après avoir fait la partie, etc. Donc quand les choses ont, quand on a une bonne vision d'ensemble.
Mais au départ, moi, qui est quel PNJ, voilà. Comment il s'appelle? Quelle est la...
Ouais, moi aussi, j'ai un peu...
Ça a été très laborieux, parce que comme le background est très riche et qu'il y a un contexte historique énorme, on se demande tout le temps, alors qu'est-ce que je peux mettre en place qui soit cohérent avec ça, qui soit intéressant. Et c'est vrai qu'une des difficultés aussi, c'est qu'on ne sait pas trop... Alors, sur le sous-titre du jeu, c'est Story Now in
Cold War Berlin.
Voilà. Et donc, du coup, il y a... On voit assez vite que, notamment parce qu'il y a beaucoup des motivations qui sont liées autour de l'amour, etc., on voit bien que l'idée, c'est davantage d'être dans des situations dramatiques, etc. Mais quand même, quand le background du jeu est très très riche, il y a quand même une... On se demande à quel point il faut le connaître sur le bout des doigts, pouvoir le respecter, pouvoir suivre tout ça. Et il y a un peu un syndrome de... à quel point le jeu n'est pas simulationniste, vu l'ampleur de l'univers qu'il présente, ou à quel point on ne doit pas l'être un petit peu. Et c'est une surcharge, une quantité d'informations à gérer qui est... compliqué.
J'aurais des choses à raconter sur la...
Moi, je tiens à dire qu'en fait, il n'y a que deux fiches de personnages à la table. Donc toi, tu as à peu près les notes que tu as prises sur ton personnage. Mais le personnage de l'autre, même si tu as lié un ou deux PNJ ensemble, il y a aussi un certain nombre de PNJ qui ne sont pas liés à toi, que tu n'as pas forcément trop repéré. Et le troisième joueur, lui, en l'occurrence Fabien, il a sous le nez ni l'une ni l'autre, quoi.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Fabien ?
Alors, ben, je vais le dire tout de suite finalement.
Ah oui.
Sur la surcharge cognitive, je pense que cette surcharge cognitive fait en fait vraiment partie du jeu. C'est un vrai élément de jeu.
C'est ce que je me suis dit au bout d'un moment. Ouais.
C'est un vrai élément de jeu. Alors, c'est moins apparu dans cette partie, mais dans l'autre partie que j'avais joué, j'avais déjà joué une fois parce que pour préparer un peu le podcast. Et on avait. C'était pas l'opposition KGB-CIA, c'était des trucs beaucoup plus compliqués. T'avais un groupe d'extrême droite, t'avais des services secrets de est-allemands qui se tiraient dans les pattes. Enfin bon, des trucs assez complexes. Mais cette surcharge cognitive, en fait, elle faisait, et même ici, elle fait vraiment partie du jeu, parce que c'est la même surcharge cognitive que ont aussi les espions. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision, quand ils choisissent quelque chose, ils sont obligés de penser aux positions de toutes les agences, de tous les gens qui sont autour d'eux, et d'anticiper les réactions qu'ils pourraient avoir ou pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir négocier ou pas avec les autres ?
Ouais, on est dans une machine très très complexe dans laquelle le déplacement de chaque rouage a des conséquences sur des rouages
infiniment
lointains, et donc du coup il faut essayer de prendre les meilleures décisions stratégiquement, etc. Et du coup cette surcharge cognitive là, elle permet de se mettre un peu à la place, d'être un peu comme si on y était.
Et c'est quelque chose que j'avais connu aussi dans un jeu que...
Ça c'est très sim justement, comme le disait, le faisait remarquer Antoine.
J'en veux pour contre-exemple un projet que j'ai beaucoup testé mais que je n'ai pour le moment encore jamais abouti, dans lequel on joue des elfes dans la cour de l'empereur des elfes, et dans lequel très rapidement il y avait aussi une grosse surcharge cognitive qui apparaissait parce qu'il y avait plein de personnages
qui avaient fait des liens, des pactes,
voilà,
etc.
C'est ça. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, quel que soit ce que tu fais, tu es obligé de déplaire à quelqu'un pour plaire à quelqu'un d'autre, donc tu es tout le temps en train de gérer les relations des uns avec les autres.
Ouais.
Et donc, au bout d'un moment, tu avances beaucoup à l'intuition, tu vois, tu le vois, parce que tu peux.
Tu peux pas prédire vraiment les conséquences de tes actes, tant c'est complexe.
Exactement, personne n'a de vue d'ensemble, pas même le MJ.
T'as l'illusion que quelqu'un de très très fort, une puissance de calcul extraordinaire, serait capable de le faire,
c'est ça.
Mais que c'est pas à ta portée. Donc au final, tu finis par aller au jugé, etc., sentir les choses.
Exactement. Et je trouve que c'est une sensation qui est à la fois déplaisante, parce que évidemment c'est un peu angoissant, surtout ici dans ce contexte-là. Et en même temps, je la trouve intéressante. Elle dit, tu vois, il y a quelque chose de vraiment fort en termes de fiction.
Moi, c'est aux échecs que j'ai typiquement ce genre de sensation, de surcharge cognitive. Je me dis, mais si j'avais une puissance de calcul suffisante, je serais capable de faire le meilleur coup et tout ça, mais les implications sont tellement grandes, tellement immenses que mon cerveau limité n'y arrive pas. Et
moi, j'ai ça à la bataille. Hein. Les échecs, j'ai pas besoin d'aller jusque-là.
Mais tu vois, souvent, les décisions géopolitiques ou géostratégiques sont comparées. Et c'est très souvent qu'on compare, par exemple, Vladimir Poutine à un joueur d'échecs, tu vois ce que je veux dire, ou à tous les gens qui doivent prendre des décisions, en fait, géostratégiques à des joueurs d'échecs. Et à mon avis, c'est parce que, justement, cette sensation de surcharge cognitive, ils l'ont aussi, quelque part.
Moment anecdote. J'ai découvert récemment que Vladimir Poutine, en fait, tu dois pouvoir le croiser dans les années 80 dans Spionne à Berlin, puisqu'il a travaillé pour le KGB dans les années 80 à Berlin-Est.
Donc ça peut être une grosse guest star un peu comme...
Exactement, ça peut être un PNJ de l'univers. C'était le moment anecdote.
Et dernière chose, dans la création de personnages, on tire tous un... Enfin, les deux personnages tirent un sombre secret.
Ah oui, alors ça...
On y arrive quand même, le narrativisme arrive là.
Ça, il faut
alors,
en parler.
Le sombre secret.
C'est-à-dire que tu écris... Chaque personne écrit sur deux papiers... Une transgression, c'est quoi? C'est quelque chose que soit tu as fait, soit quelqu'un que tu connais a fait, et qui est particulièrement grave. Ensuite, tu plies ces papiers, tu les mets dans un récipient, d'où c'était une passoire là-haut. Tu mélanges et chacun tire un papier de son un papier et l'incorpore dans l'histoire de son personnage. Et ensuite, sans le montrer aux autres, il le met entre les deux feuilles, dos à dos.
Ah oui, ça en plus dans Spion, moi j'ai encore la mienne.
Et ensuite, chaque feuille est agrafée l'une à l'autre comme un dossier administratif. Et donc.
Et le sombre secret est prisonnier entre les deux.
Voilà.
Et ne peut pas être extrait et lu partiellement
déchirer
la feuille.
Là, on le voit par transparence quand tu lèves à la lumière. Là.
Voilà.
Donc j'ai d'un côté ma fiche. d'espion CIA, ma mission, etc. De l'autre, j'ai Jürgen Krause, mes liens, ma famille, étudiant, etc. Et au milieu,
ouais, c'est génial. C'est génial. Je trouve ça super. Moi, j'ai eu l'occasion de oh là là, c'est fort. J'ai eu l'occasion d'avoir des. Il se trouve que dans ma vie personnelle, j'ai eu l'occasion d'avoir des relations avec des gens qui avaient travaillé pour des services. Voilà. Et le sombre secret, c'est. Ce qui est incroyable, c'est que quand on discute en fait avec eux, ces gens sont toujours hantés par quelque chose, effectivement, qu'ils ont fait, une action en fait que l'État en fait leur a demandé de faire et qui les hante vraiment, quoi. Et dont la plupart du temps ils osent pas parler ou quand même mais parfois ils peuvent même pas le dire. En fait, pourquoi c'est un sombre secret? Parce qu'en fait ils peuvent l'action est telle que ils ne peuvent même pas la confier à leur petite amie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop grave. Si leur petite amie cesse d'être leur petite amie, la chose ébruitée sera tellement, ils peuvent pas la confier à un psychologue parce que qui sait? Le psychologue, c'est peut-être, tu vois,
c'est peut-être un espion lui aussi.
C'est ça. Et donc, en fait, ils se retrouvent avec des sentiments, des éléments de leur vie, des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ne peuvent à aucun moment, dans quelque cercle que ce soit, verbaliser. Et ça, on sait, toi, Fabien, qui aime beaucoup la psychanalyse, etc., on sait qu'en psychanalyse, c'est un drame, quoi. Parce que par essence, ce qui n'est pas verbalisé, ce qui ne peut être verbalisé, sera psychosomatisé. Et en fait, un espion, c'est quelqu'un qui enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est des gens qui sont travaillés par ça vraiment, quoi, et qui doivent lutter en permanence contre leurs sombres secrets. Et tous en ont, forcément. On est tous amenés. Alors, quand on travaille pour des services ou pour un État, à effectuer des actions qui sont au moins litigieuses. Je dis c'était pas forcément extraordinaire, hein, les choses qu'ils avaient faites, mais c'était suffisamment litigieux pour qu'ils puissent pas en parler. Et de fait, quand on peut pas parler de quelque chose, ça devient un tabou et ça se transforme en quelque chose d'énorme. Alors que si ça se trouve, c'était rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire quelque part sur le papier.
Là, ça crée une autre. Relation. Alors,
je ne sais pas combien de livres sur l'espionnage Ron Edwards a lu, mais ça témoigne en fait d'une grande. Il s'est documenté, tu vois. Ouais. Ça se sent là quand.
Bon, qu'il se soit documenté, il y en a des kilomètres là-dedans. Hein. Ouais. Tu peux. Ouais. Mais alors, ça crée autre chose de supplémentaire à la table, qui est une forme de malaise quand même, je trouve. C'est-à-dire que.
Parce que t'es tenté de l'utiliser ton son secret, tu vois. Il n'est pas juste là pour mettre de l'ambiance, quoi.
Tu peux le révéler durant la partie, et donc tu peux révéler que ton personnage a fait quelque chose durant la partie. Et quand tu le fais, ton personnage peut, en termes de règles, à partir de ce moment-là, ton personnage peut commencer à sauver des gens proches de lui. À dire, en fait, tel personnage, elle a réussi à partir à l'ouest, elle a réussi à trouver une position, il a réussi à trouver une position qui le met hors d'atteinte des services secrets de telle faction, etc.
Tu augmentes ton contrôle sur les épilogues éventuels de plein de personnages, quoi, en gros.
Mais ça suppose de révéler ce que ton personnage a fait. L'autre truc, mais donc ça c'est la dimension fiction. Autour de la table, ça crée un truc assez étrange dont Ron Edwards parle. Alors Ron Edwards dit très bien en termes de sécurité émotionnelle que il est pas là pour ça.
C'est pas super safe.
Il est pas là pour du safe. Il est très clair là-dessus. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses pour te protéger. Déjà, il y a une première chose pour se protéger qui est de faire brûler tous les papiers qui n'ont pas été utilisés. Donc on a fait brûler dans un cendrier là-haut tous les papiers qui n'ont pas été utilisés. Ça sent un peu
Ah ouais.
Ouais.
Parce qu'en tout on en a fait deux chacun, donc il y en avait six. On en a tiré deux au hasard et les quatre restants n'ont jamais été lus par personne d'autre que celui qui les avait écrits.
Ils ont été détruits.
Mais ça c'est tellement stylé aussi dans le.
Ça fait espion.
Et l'autre truc, c'est qu'il dit bien qu'il faut faire attention à quand on voit la transgression, à ne pas se poser la question de est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à la table, est-ce que bon. Et après tout, tu peux aussi dire que quand tu écris, personne n'ira vérifier que ce qui a été raconté dessus a vraiment été fait, tu vois. Enfin, ça peut être complètement.
Moi, je l'ai pris vraiment pour de la fiction, quoi. Je veux dire, on m'a demandé de balancer un sombre secret, je balance un sombre secret. Il n'a rien à voir ni avec ma vie ni avec mes relations, tu vois. Bien que c'est ce que dise la base, évidemment, c'est pas ce que je fais.
Parce que c'est censé avoir un lien avec.
Avec toi.
Mais c'est là, soit toi, c'est là soit quelqu'un d'autre qui l'a fait.
Et
quelqu'un que tu connais.
Et typiquement, là, moi, où j'ai eu du mal à ce moment-là, c'est que c'est une chose de réfléchir à un sombre secret lié à toi ou lié à quelque chose que tu connais ou que tu inventes partiellement pour x ou y raison. Mais surtout, en même temps, tu te dis, OK, il faut que je mette quelque chose, mais qui peut être amené à être joué et donc qui doit quand même être un minimum cohérent avec l'univers, avec les espions, etc. Et quelque chose qui peut être un sombre secret pour... un individu contemporain dans un contexte donné sera pas forcément un sombre secret ou ça sera peut-être plus banal pour un espion de cet élément-là. Enfin, tu cherches. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là. Dans la catégorie surcharge cognitive, il y a plein de moments où j'ai mis du temps à réfléchir, à trouver des idées, mais ce moment-là en particulier, je séchais vraiment parce que je me disais, alors il y a le côté malaise qui est voulu et qui peut être intéressant, même si pas très safe, d'amener des problématiques personnelles et des problèmes qui peuvent être personnels ou pas. Mais c'est quand même bizarre la démarche de vous dire d'encourager à mettre des choses qu'on connaît ou qui sont réelles pour qu'on y soit plus attaché. Mais en même temps, au final, c'est pas le but de chercher d'où ça vient derrière. Et ça va juste nourrir un secret d'un personnage, mais dans un contexte très différent. Donc tu peux pas mettre des choses qui sont anachroniques, tu peux pas mettre des choses qui fonctionnent pas avec aucun des personnages de la table. Enfin, moi, j'ai eu plein d'idées où je me suis dit non, mais ça serait bizarre ou je saurais pas trop comment jouer. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment eu du mal à cette étape parce que je me disais qu'est-ce que je peux mettre qui va aller dans le sens du jeu tout en j'ai du mal à comprendre l'intention du truc, quoi.
Mmh. Ah, parce que t'avais pas expliqué à quoi servait le sombre secret.
Si, si,
c'est clair, oui, oui.
C'était quand même pas
évident. Et donc, ça sert à quoi au final?
Eh ben,
à pouvoir sauver tes proches.
Tu peux les révéler en cours de partie. Ah, tu veux dire en termes au niveau game design?
Voilà, c'est ça.
Ça, je ne sais pas. Une des difficultés de Ron Edwards, c'est que, un, c'est les règles qu'il écrit ne sont pas toujours très claires. J'ai eu la chance de traduire Slay With Me, qui pourtant est un jeu très court, mais même sur un jeu très court, il faut être honnête, ces règles ne sont pas super claires. Et deux, il n'est pas toujours très clair sur ses intentions de game design. Ce que je regrette beaucoup, parce que je trouve souvent ces jeux sont vraiment intéressants, mais il y a souvent pas mal d'interprétations laissées au lecteur ou de choses à bricoler, à compenser, à faire des rillettes soi-même.
Mais surtout, c'est une chose de faire des rillettes, mais c'en est une autre de devoir se demander dans quelle direction les rillettes doivent aller. Tu vois, c'est encore un autre problème.
Et ça, c'est un truc qu'on retrouve. Je parlais un peu de l'œuvre de Ron Edwards. C'est un truc qu'on trouve dans tous ces jeux, et c'est pour ça que c'est important. J'ai l'impression de jouer à plusieurs de ces jeux pour arriver à comprendre comment ils fonctionnent, c'est-à-dire comment ils pensent lui-même ces jeux. J'ai l'impression que, par exemple, c'est quelqu'un qui est très orienté personnage. Les personnages sont vraiment très importants dans l'histoire de Ron Edwards. C'est parfois les personnages tout seuls, en fait. Mmh. Plus que leur relation, plus que la dynamique, plus que la légende, plus que...
Ils kiffent presque... En fait, dans le jeu de rôle, ce qu'ils kiffent, c'est pas tant le contenu fictionnel que le personnage fictionnel, quoi.
Ouais.
Si on veut, quoi.
Et pas tellement l'évolution. Par exemple, chez Ron Edwards, les personnages n'évoluent pas beaucoup. Ça aussi, ça m'a frappé. Ils évoluent plutôt parce que... Enfin, ce qui est important, c'est plutôt à quel point toi, tu te le... En tant que joueur ou joueuse, tu te l'appropries.
D'accord. Ok, ok, ok. Et ça donne quoi, alors, une partie de Spionneux?
Eh ben, tout ça. Parlons de la fiction.
Oui. Ouais, donc on peut continuer à expliquer le système. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, on va chacun cadrer une scène, soit sur notre personnage, enfin sur un des deux personnages à la table, en fait. C'est pas parce que moi j'ai créé un personnage que je suis obligé de faire des scènes sur mon personnage. Ouais. Et puis, jusqu'à ce que on amène un personnage à un point de rupture, je sais plus comment tu appelais ça.
Un flashpoint.
Et c'est-à-dire une situation de tension importante. Et là, ce personnage, il est verrouillé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de scène avec ce personnage-là. On va continuer à faire des scènes avec l'autre personnage. Et jusqu'à ce qu'on amène le deuxième personnage, lui aussi, à un flashpoint. Et là, après, on va résoudre les flashpoints par le système de résolution.
D'accord. OK.
Donc, on commence chacun notre tour à faire des scènes, quoi.
Qui peuvent être très courtes, qui peuvent... On s'était posé la question, mais nous, on considérait que c'était possible tout à fait de faire des dialogues, d'intervenir, d'avoir d'autres joueurs qui participent aussi.
Mmh. Qui jouent les rôles des figurants,
voilà,
finalement.
Oui, voilà, ouais.
Même si une scène, en soi, au début, est cadrée et a lieu. Et le tour de parole est fixe, c'était vraiment Fabien, puis moi, puis Lobo, puis Fabien, etc. Donc on enchaînait comme ça.
C'est un tour de jeu, d'accord. Hein.
Et Et effectivement, tant qu'on n'arrive pas à des moments d'enjeu forts, alors ça restait assez flou, mais dans les faits, on se disait que c'était quand vraiment il y avait des conséquences fortes. On ne fait pas appel au système de résolution du tout, juste on raconte les scènes les unes après les autres.
Quand quelqu'un pointe un pistolet sur toi,
fondamentalement, au moment où quelqu'un cadre une scène, il a sa seule limite, c'est qu'il pouvait pas immédiatement tuer un personnage ou le mettre en danger majeur ou en état de nuire, etc. Mais quand quelqu'un cadre une scène, il pouvait quand même amener des choses assez fortes. En particulier, il n'y en avait qu'un notable, mais le joueur qui n'a pas d'espion, comme il est davantage amené à jouer les figurants, etc. Toi, régulièrement, Fabien, t'as amené des situations plus... Genre, tu as pu décrire au début d'une scène immédiatement que le personnage de c'était quoi ton personnage, une fois ?
C'est Andrus.
Donc, Andrus trouvait son ami poète, qui était la sœur de mon personnage, blessé très gravement, qui avait été tabassé,
battu à mort, presque.
Et qui était mortellement blessé, paf, au début d'une scène, quoi. Donc... l'autorité qu'on a pour décrire des choses est assez forte.
Et immense.
Et en fait, ce n'est que quand, à la limite en tant qu'espion, on demande des choses très fortes que va y avoir un flashpoint pour éventuellement voir si on... Alors, c'est pas tellement... Bon, on décrira après, mais le flashpoint, c'est pas tellement une situation de est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ? Parce qu'en fait, dans les scènes qu'on décrit en amont, on peut décrire plein de trucs. On peut décrire les informations qu'on a, on peut décrire un lien qu'on crée avec un informateur, on peut décrire une réussite d'une tentative de chantage, on peut décrire plein de choses. Et c'est vrai que le flashpoint reste assez interprété sur ce qui se passe.
Et tu as des conseils dans la base pour savoir comment cadrer ces scènes ?
Alors,
ou c'est très libre ?
Pas vraiment.
Voilà.
Mais il y avait quand même une idée très forte dans le jeu. Grosso modo, la dynamique qui se faisait, c'était que les deux espions faisaient avancer leur histoire. Moi, j'ai très rapidement compris qu'il fallait que je leur mette des bâtons dans les roues. Et en particulier, donc, je cherchais comment les autres personnages, les autres PNJ pouvaient réagir pour leur apporter des problèmes. Donc, par exemple, l'exemple qu'a donné Antoine. Et surtout, il y a un concept qui est essentiel dans le jeu, qui est le concept de cold. Le froid, donc le cold, c'est le fait que l'espion est de plus en plus isolé de son superviseur et voire des personnes qui l'entourent.
Oh, c'est génial.
C'est-à-dire que il y a plein de raisons qui expliquent ça. Souvent, c'est le fait que l'agence pour laquelle tu travailles part en vrille parce qu'il y a des conflits politiques, parce qu'il y a des conflits de génération, parce que l'agence devient complètement paranoïaque.
Tu te retrouves livré à toi-même.
Parce que tu crains que ton superviseur ne soit passé à l'ennemi, par exemple. Parce que tu crains que les informations que tu utilises ne vont faire du mal à tes amis, donc tu es obligé d'être méfiant vis-à-vis de ton superviseur. Enfin bon, et donc que tu es de plus en plus isolé.
Ouais.
Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai essayé d'utiliser en faisant en sorte de vous aliéner autant que possible vos superviseurs.
En fait, il se trouve... Pardon, on revient, tu sais, au principe de Shege, qui dit que si tu génères toi-même une adversité et que tu la résous, eh ben c'est chiant.
Dans la foulée.
Si ouais. Ta propre adversité.
Ta propre adversité. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des joueurs à la table qui n'aient pas de personnage. Parce que toi, dans ton expérience un peu tradie de jeu, tu vas avoir tendance à plaider pour ton personnage. Donc tu vas pas le mettre dans la merde pour refaire une scène derrière où tu l'en sors. Quoi.
Et c'est pas qu'un truc tradie, hein, c'est même, je pense, dans l'intention du jeu, tu vois.
Oui, 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 je pense que c'est dans l'intention du jeu. Je pense qu'il a ça en tête, Edouard.
Le truc, c'est que si tu jouais à deux, même dans la configuration qu'on avait là à trois, t'es pas encouragé à aller chercher des noises à l'autre, t'es là à cadrer une scène dans laquelle tu le mets dans la mouise. T'as plutôt tendance à développer ce qui t'intéresse, ton personnage et tout. Tu vois.
Bien sûr. Et t'es d'autant plus pas amené à mettre l'autre dans la mouise qu'on a les problèmes de surcharge cognitive dont on parlait au début et que René Edward, il t'aide pas spécialement à il t'explique pas vraiment le type de scène que tu dois cadrer, quoi. T'es un peu livré à toi-même, t'es en pleine surcharge cognitive, tu vas pas aller faire chier les autres, quoi. T'essaies déjà de poser les murs d'une fondation autour de ton personnage pour construire un truc, quoi, comme tu peux.
Mais c'est vrai qu'au début, il y avait souvent des problèmes analogues aux problèmes de Shege, qui étaient que quand on met en place les scènes Et au début, un peu plus, où on n'avait pas encore pris cette habitude de résistance qui venait beaucoup de Fabien, qui n'avait pas de personnage, bah, du coup, souvent, tu mets en place quelque chose et tu te retrouves à dialoguer, à pas savoir si tu dois dialoguer avec toi-même, à quel moment tu dois arrêter ton monologue de cadrage de scène pour que quelqu'un intervienne. Et il y avait beaucoup de cas de figure où c'était pas évident de construire quelque chose comme il n'y a pas à ce stade de système de système qui est impliqué, à part juste on parle et tout peut intervenir. Bah, c'était parfois très très brumeux de savoir où fallait s'arrêter dans sa scène, jusqu'à quel point d'écrire, jusqu'à quel point en fait je peux décrire. Bah, je vais à l'ambassade de Russie de nuit, j'espionne avec des jumelles et je me fais pas repérer, tout va bien. Genre, j'en sais rien. C'est eu des difficultés avec ça, moi, au début, parfois, de se dire. De l'ordre du principe de Chéguet, ouais.
Le système à ce moment-là, c'est vas-y, raconte des trucs cool sur ta mission, quoi.
Et j'ai l'impression que dans les jeux de la Forge, tu me corrigeras si je me trompe, Fabien, cadrer une scène, c'était très très clair pour eux ce que ça voulait dire. Et il y a beaucoup de jeux de The Forge dans lesquels on dit cadrer une scène. Et pour eux, à cette époque-là, ça devait avoir du sens, vraiment. Il devait y avoir, tu vois. Ça devait...
ouais, ouais, peut-être. Hein.
Et aujourd'hui, en fait, on ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de jeux qui nous aident à cadrer des scènes et qui cadrent des scènes d'un sens donné et qui nous disent comment, en fait, cadrer des scènes. Et à l'époque, c'était juste cadrer une scène, c'était évident, quoi.
Ça, c'est un problème, je pense, qu'on aura éternellement dans l'histoire du jeu de rôle. Ouais, c'est que t'as beau reprendre le texte du jeu, il y a toujours tellement d'implicites sur la façon de jouer, sur la façon de faire... que
je me demande,
j'aimerais qu'on puisse écrire des jeux tu vois, enfin qui soient particulièrement clairs. Mais
ce que je me demande, c'est si c'est pas lié au vocabulaire du cinéma là, à ce moment-là, parce que cadrer une scène, clairement, on parle de cadrage, on parle de réalisation de film, etc. Et donc là, du coup, dans la mesure où Spionneux est un jeu dans lequel on doit jouer des films, en fait, un film d'espionnage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Cadrer une scène, c'est cadrer une scène à la manière dont le ferait un film d'espionnage.
Et ce qui est difficile, c'est que ça va même jusqu'au point où il ne parle pas exactement de cadrer une scène, il parle de manœuvre dans le texte. Manœuvre.
D'accord, ok. Ouais.
Donc je ne sais même pas exactement, enfin, voilà, je laisserai...
Parce que tu es censé mettre en place une situation, mais dans le cadre de cette situation ensuite, d'écrire les manœuvres de ton personnage pour essayer d'avoir des informations, des renseignements, etc. Mais en même temps, tu décris ces trucs-là, les choses ne seront réellement cristallisées qu'au moment d'un hotspot,
un flashpoint.
Il y a la même, j'ai toujours eu la même question en jouant. On y a encore joué hier soir avec Antoine à Slay With Me sur les moves. C'est-à-dire les moves dans Slay With Me, c'est voilà, tu racontes une action de ton personnage. Et en fait, il y a aussi une difficulté, que ce soit sur les manœuvres de Spione ou les moves de Slay With Me, qui est comment dire, quelle est la longueur que ça doit prendre? Est-ce que c'est un truc du genre mon personnage avance, il arrive dans une pièce, il trouve l'ambassadrice, paf, je te passe la parole? Ou bien est-ce que c'est un truc du genre j'avance dans l'un, je vois l'ambassadrice, je parle avec elle, j'obtiens ça et puis ensuite je me barre, vas-y à toi. T'as, quelle est la longueur que j'ai le droit de faire avancer? Dans Slay With Me, c'est assez explicite que tu peux faire des moves très courts ou des moves très longs, et que selon la longueur de tes moves, ben tu vas faire une histoire longue ou courte, c'est-à-dire soit un duel, soit un grand truc épique et long.
Globo,
t'avais... Ouais, non, c'est compliqué. En rappelant que à ce moment-là, t'as pris, je sais pas, une petite dizaine de PNJ dans la gueule, oui, les 6 ou 7 à l'avance, etc.
T'es déjà fatigué rien qu'à l'exposition de l'univers dans lequel on t'a mis.
Et nous, en plus, on a eu la bonne idée de faire ça en début d'après-midi, après un bon repas, bien au chaud. on était tous... Donc les débuts, voilà, ça va que j'ai l'habitude d'improviser, mais c'est pas facile de rentrer dedans, quoi.
Juste une petite question pour toi, Fabien. C'est, est-ce que, d'après les parties, la partie que tu as faite de Spionneux avant celle-ci, est-ce que ça ressemble à une partie de Spionneux telle que tu te l'imagines?
Moi, j'ai l'impression que oui.
Ok, très bien.
Moi, si tu veux, tout de suite, mon sentiment général sur ce jeu, c'est que c'est un bon jeu, un jeu correct. Pas un jeu extraordinaire, mais ça vaut la peine d'y jouer et ça vaut la peine de le tester si tu t'intéresses aux questions d'espionnage. C'est de loin pas un jeu parfait, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui fait le taf.
Voilà. D'accord.
Je me demande aussi si c'est pas un jeu pour vraiment en profiter. Il faut déjà vraiment bien connaître ces questions, et avoir le livre et tout. Parce que là, vraiment, j'ai beaucoup ressenti dans cette partie un problème de manque de référence.
Mais tu vois, ça c'est un truc que tu peux te dire. Imagine les gens qui savent pas ce que c'est que le Seigneur des Anneaux ou la fantasy. Et puis on l'a fait jouer à des trucs qui nous semblent tellement évidents.
Dans le contexte de quelque chose qui naturellement crée beaucoup de surcharge, ça ajoute encore plus. Tu vois. Alors oui, un système complexe de JRTradi, c'est possible une autre forme de surcharge, mais ouais.
Et ouais, vas-y, ouais, go.
Alors moi, je vais donner mon avis aussi. Du coup, moi, je dois dire que dans cette partie-là, j'ai passé de vraiment bons moments. Il y a des moments où je me suis carrément fendu la poire, quoi. Mais parce que moi,
là... rigoler, tu t'es mis à rire.
Ah oui, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Ouais. Déjà parce qu'il y a de la tension, et puis parce que moi, j'aime le côté drama des choses. Et il y a des moments, c'était pas piqué des verres, quoi. L'ironie dramatique, étrangement. Je les ai même plus forcément en tête, mais je sais que j'ai bien rigolé, que j'ai passé un bon moment. D'accord. Est-ce que je trouve que c'est un bon jeu ? Moi, je trouve qu'on est trop livré à nous-mêmes pour que ce soit un bon jeu. Tu vois, j'en ai trop chié, quoi. Même si ça a produit des moments qui étaient cool. Mais moi, je me suis pas senti soutenu par l'auteur, pour le coup, quoi. Mais parce que moi j'aime bien le drama, parce qu'il y a de l'ironie dramatique à fond les ballons.
Ça, on comprend
bien, ouais. Moi, j'ai bien rigolé. Okay. Et effectivement, je me souviens plus forcément des moments où j'ai rigolé.
Tu as mis un certain nombre de trigger warnings au début du podcast. Ouais, ouais. Pour l'instant, on n'a pas du tout parlé. Mais je veux dire, la fiction avait l'air assez dramatique, assez lourde pour vos personnages, pour les personnages qui les entouraient, etc. Et c'est vous-même qui avez choisi ça, ou alors le jeu vous y encourage, vous avez la sensation que le jeu vous a
avec les transgressions,
à le faire.
Si tu veux.
Les transgressions, voilà.
Et puis le fait que voilà, t'es entouré d'espions, il y a quand même des gens qui veulent ta mort, toi, enfin.
Surtout, je pense les motivations des gens à agir, que ce soit nos personnages ou des personnages qui en dépendent, tout le monde agit sous semi-contrainte, soit sous la menace, soit pour des questions de gains, enfin. Mais avec un sentiment de risque, et donc. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, le jeu n'est pas très clair sur ce qu'il cherche à encourager le plus, mais assez vite on se dit que ce qui est intéressant à jouer de toute façon c'est du drame au sens merde, comment est-ce que je continue à gérer avec l'ambassade, sachant que moi typiquement un exemple de scène que j'ai eu qui peut montrer ça, c'est je me fais en arrivant à mon université alpaguer par deux types dans des grands manteaux à l'air assez sombre, je sais pas trop qui c'est, je sais pas trop pour qui ils travaillent, et les mecs commencent à m'interroger parce que celle qui gérait ton dossier à toi, donc Tatiana Rodovnapnine, qui gérait une opération pour le KGB, avait été arrêtée, donc il y avait des informations qui commençaient à fuiter là-dessus. Et moi, je travaille pour la CIA, sauf que une part de ma couverture, qui est ma légende, c'est que j'ai un faux background de militant extrême gauche. Et donc je suis soupçonné d'être lié à elle, alors que je travaille pour la CIA. Et donc je me fais alpaguer par ces deux types et je me fais interroger. Et comme je suis pas très coopératif, ils me disent bon, écoute, on va te menoter, on va te choper, t'amener ailleurs. Et moi, je sais pas du tout si ces mecs sont pour la série CIA et qu'ils sont pas au courant que je bosse pour le même camp et qu'il y a une espèce de quiproquo. Je sais pas s'ils sont pour une des sept autres agences à côté. Donc il y a une situation de stress. Et typiquement, ce qu'on décrivait tout à l'heure, dans cette espèce de côté. En termes de maelstrom, c'est très très difficile parce que tu te dis, mais tu sais vraiment, moi vraiment souvent je me dis, mais je sais pas quoi faire, parce que quoi que je fasse, les directions dans lesquelles ça peut partir m'échappent tellement en termes de conséquences, en termes de gravité des conséquences. Est-ce que juste je m'enfuis, je me barre en courant, est-ce que j'essaie je leur dis, écoutez, on est peut-être dans le même camp, alors là c'est fini, je me grille complètement. En même temps, ça se trouve, ces mecs, enfin, c'est même pas la police ou des trucs, c'est des mecs qui arrivent dans le bahut.
Ouais, c'est des barbouzes, hein, vraiment.
Donc c'est vraiment, t'es dans une situation où t'as pas d'informations, tu sais pas quoi en tirer ou quoi en faire, et
ça craint. Crépusculaire.
Et ça craint.
Franchement, ça me fait beaucoup, la description que vous faites du jeu, ça me fait énormément penser à L'Armée des Ombres, le film L'Armée des Ombres. Ça a l'air vraiment...
Je ne connais pas du tout.
Ça a l'air d'être une chape de plomb, ce jeu, quoi. Ça...
Ben, c'est un jeu sur la paranoïa des espions, quoi.
D'autant plus que tu n'as jamais vraiment de relation sympa avec les PNJ. Tu es toujours dans des relations de pression, quoi. Soit tu exiges quelque chose d'eux, soit eux, ils exigent quelque chose de toi. Y a pas, nous, on n'a pas joué de relations cool, bienveillantes, feel good, sympa.
la copine du personnage d'Antoine et le papa nazi du personnage d'Antoine.
Alors, oui, mais c'était
mais même ça, c'était glauque, quoi.
Oui, parce que de mon côté, j'étais emmerdé à devoir gérer avec ça, avoir une copine tout en ayant une relation avec un de mes contacts à l'ambassade russe. Voilà. Je cachais des choses, c'était quand même compliqué, quoi.
Et ton papa nazi, il t'invitait dans des trucs, ouais. des groupements de néonazis auxquels tu as fini par venir assez volontiers, quoi.
Parce que j'ai décrit que ça m'arrangeait et que c'est l'un des points où je me demandais si ça allait se retourner contre moi, mais t'as mis de l'adversité plutôt sur d'autres éléments. Donc ouais. Au final, je bossais pour la CIA, mais quand j'interrogeais un mec de l'ambassade russe, j'avais deux potes néo-nazis qui venaient le tabasser avec moi pour avoir des infos, tu vois.
Oh mon dieu, un ancien militant d'extrême gauche soi-disant qui fréquente les colloques nazis, c'est beau aussi. Hein. C'est piquer des verres, comme disait Globo tout à l'heure.
Et juste pour
Fabien,
pour terminer, parce qu'on n'a pas parlé du système de jeu jusqu'au bout, donc on avance par scènes successives et à un moment, un personnage est bloqué dans un flashpoint. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de tension où on se dit, ok, là, il y a quelque chose à résoudre, on est obligé de faire appel au système de résolution. Et donc, à ce moment-là, ce personnage-là est suspendu, on ne peut plus rien raconter sur lui, et on continue à jouer l'histoire de l'autre personnage jusqu'à ce qu'elle aussi arrive à un flashpoint. Et à ce moment-là, on sort des cartes, et je suis désolé, je ne peux pas décrire ce système-là, parce que là, c'est Perceval et
Cardot. On joue à cul de chouette. Ouais.
Une fois qu'on l'a pris en main, il est assez simple, mais il est pas intuitif.
En gros, principalement du hasard et dans certains cas quelques petits éléments de choix sur des cartes à déplacer qui vont avoir pour conséquence comment les flashpoints vont se dénouer. Ça va juste déterminer qui parle dans quel ordre et avec quel niveau de pouvoir sur la narration. C'est-à-dire qu'à l'issue du cul-chouette, on a des cartes qui nous disent...
Du cul-chouette.
C'est ça. Cul-chouette ou Chante Slooby, Grelotte sa picote, enfin compagnie. Et donc, tous les jeux de Perceval de Kaamelott. Et donc, à l'issue de ça, on a des cartes qui nous disent, c'est d'abord Fabien qui va raconter un élément, puis un tel, avec deux cartes, donc il aura beaucoup de pouvoir, puis un tel, mais un tel pourra annuler ce qu'il a raconté. Voilà, ça va, et on va avoir... du coup, cette fois, on n'est plus dans un tour de table, mais on est dans... un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, qui est déterminé, et on raconte comme ça.
Et où on positionne des faits...
Sachant que ce que ces cartes racontent peut raconter le dénouement de deux scènes en même temps, parce que c'est...
Voilà, le flashpoint raconte l'issue de deux scènes séparées en même temps. Ok ?
Oui, bien sûr. Parce que le flashpoint peut avoir lieu à la fin, on a eu un flashpoint qui était au même endroit, au même moment.
Voilà.
Donc, non, en fait, j'y comprends rien. Je vais pas mentir, c'est complexe à comprendre. Ce qu'il y a, c'est que quand moi je présente ça un climax,
c'est un peu ça.
Quand deux scènes arrivent à leur climax, c'est une seule et même résolution qui va déterminer de la résolution des deux scènes en même
tout
temps,
tout à fait,
ouais. Et qui va déterminer le pouvoir de narration de chacun, ouais, sur les scènes, et notamment un point important aussi par rapport aux relations, même positives.
Qu'est-ce que ça apporte du game design que deux scènes se résolvent?
Alors juste pour finir là-dessus.
Pour moi, que si tu notamment... fais chier à faire un système de résolution, ouais.
Alors tu vois,
Rome, ça a du sens, tu vois.
On avait beaucoup discuté à une époque de dire oui, est-ce qu'il faut une note d'intention dans les jeux ou pas, etc. Moi, je pense que vraiment c'est important en tant qu'auteur que tu expliques ce que tu fais, pourquoi tu le fais, dans quel
objectif. Ce que c'est censé produire, etc.
Alors, Ron Edwards donne une longue note d'intention sur le plan fictionnel en t'expliquant bien ce qu'il veut obtenir d'un point de vue fictionnel. D'un point de vue de, comment dire, de dynamique de jeu, de maelstrom, il le fait même jamais dans ses jeux, et ça c'est vraiment dommage, parce
résultat, qu'on aimerait... 10 ans après, c'est incompréhensible, quoi.
C'est pas incompréhensible, tu vois, moi je trouve qu'on arrive à en tirer des bonnes parties, c'est dur de dire que c'est un mauvais... c'est un jeu qui est imparfait, mais c'est un jeu qui est intéressant quand même. De toute façon, c'est simple.
Oui, mais là, par exemple, on comprend pas pourquoi on résout deux climax par le même système.
Ça, je suis d'accord. Sans doute qu'en cherchant dans ses notes, dans tout ce qu'il a produit, parce qu'il écrit énormément, on pourrait trouver une réponse, mais voilà, moi, j'ai que 24 heures dans une journée.
Est-ce que c'est pour donner le sentiment que les deux scènes sont liées, mais que les gens le savent pas? Par exemple, tu vois, ce serait pour dire, en fait, vous ne le savez pas, mais l'issue, en fait, de cette scène-là, c'est dépendant d'une seule et même chose, mais dont vous ignorez, pour créer une espèce de sensation encore plus d'ignorance ou de conséquences incalculées ou ignorées des joueurs. Je sais pas.
Alors, moi, j'ai une hypothèse qu'on a relativement peu explorée, c'est que ça se justifie s'il y a vraiment un antagonisme fort entre les deux personnages. Quand les deux personnages s'affrontent.
Ah, bah oui.
Là, c'est intéressant. Il se trouve qu'il n'y a rien qui pousse particulièrement tes personnages à s'affronter. Même si nous, on travaillait dans des...
sur le long terme, surtout.
Oui, voilà. Nous, on travaillait...
leur identité.
Il s'est dit, comme ça, en 4 PVP, le système, par défaut, peut gérer ça. Quoi.
Voilà. Je pense. C'est une hypothèse.
C'est une interprétation. Ouais.
D'accord, ouais. Ah, c'est une hypothèse que je trouve assez séduisante.
Notamment parce qu'il y a un des enjeux de ça, c'est si jamais on arrive dans l'usine à gaz à avoir des espèces de combos de cartes, en gros, on peut raconter des choses en dépassant l'autorité qu'on a dans les scènes classiques, du genre on peut décréter soudainement tel personnage là, en fait, c'est une taupe qui est aussi dans le camp en face. Donc tu peux vraiment retourner des trucs, et on en parlait avant, même des relations a priori positives sont jamais à l'abri à un moment donné d'être complètement retournées.
Et créer un espèce d'effet de surprise, un effet d'inattendu.
C'est un exemple de ce que
espèce
c'est.
De...
T'as compris jusque-là ?
T'as compris ?
Oui, j'ai compris. Ça tombe bien, on va aller vers la dernière mécanique.
Oh la merde.
Histoire de paumer.
Je sens qu'on va passer au niveau supérieur encore. Ah oui.
Il y a une dernière mécanique qui est la révélation. C'est-à-dire qu'à tout moment dans la partie, tu peux révéler ce la transgression de ton personnage. Donc tu peux le révéler petit à petit ou en une seule fois. Donc et à ce moment-là, tu déchires ton dossier administratif, tu sors le papier et tu le montres aux autres. Bon, et tu le révèles aussi dans la fiction. C'est-à-dire les personnages doivent le savoir dans la fiction. Et à partir de ce moment-là, à la fin de chaque flashpoint, il y a une mécanique supplémentaire dans laquelle tu tires des cartes et tu choisis un destin avec un certain nombre de contraintes pour un des personnages qui est lié à toi. C'est-à-dire que tu peux dire, bon, ok, telle personne arrive à s'enfuir vers l'Est, telle personne est abattue. C'est pas forcément une fin positive d'ailleurs.
Non, mais une fin.
Une fin pour un des personnages secondaires. Sachant que.
C'est génial.
À cause de la succession des flashpoints, ton personnage a de bonnes chances d'être arrêté ou tué avant la fin de la partie. Ton personnage principal.
D'accord, ok.
Donc tu dois quand même si tu veux vraiment sauver les personnes auxquelles tu es lié, tu dois révéler rapidement ton sombre secret pour. Alors le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien fictionnel. C'est-à-dire, pourquoi diable ? Hé les gars, j'étais un sale connard il y a 10 ans. Ah ouais ? Et alors ? Eh ben maintenant, je peux envoyer.
Margaret part vers.
Voilà, c'est ça. ma fille va trouver refuge au Caire. Voilà.
Et donc, dans la fiction, moi, je révèle mon sombre secret.
Mais alors pourquoi ta feuille n'est pas déchirée ? Qu'est-ce que c'est que cette
si ma feuille elle est déchirée, regarde, j'ai juste déchiré une petite agrafe.
Oh, il a déchiré ça proprement, moi je t'aurais déchiré ça.
On avait besoin de la lire encore.
En fait, Anna, donc la sœur du personnage d'Antoine, s'est fait tabasser quasiment à mort devant le pas de ma porte, et mon personnage, il veut quand même, enfin moi, Globo, j'aimerais sauver ce PNJ, quoi. En sachant que mon sombre secret, accrochez-vous, trigger warning, c'est j'ai violé ma meilleure amie.
Donc ma sœur, ce personnage qui est
voilà,
au bord de la mort.
Et qui est au bord de la mort sur le pas de ma porte et que j'ai utilisé pour faire chanter l'ambassadrice et prendre des photos salaces avec.
Oui, là, c'est,
tu vois
c'est
le truc.
Un sombre secret.
Mais si je ne révèle pas ça, il y a des chances pour que ce PNJ meure. Et moi, j'ai quand même mauvaise conscience avec tout ça.
À la mécanique de déterminer les.
Je peux lui sauver la vie, quoi. Donc je choisis de révéler ce truc vraiment glauque.
Donc là, c'est assez cohérent, tu vois, Fabien, par rapport au truc du ça n'a aucun lien. Là, on voit que
mais
ça
pourquoi
peut avoir un lien.
Alors, le problème,
c'est un peu dur là.
Si quand même, parce que fictionnellement, non. Fictionnellement, tu vas voir l'ambassadrice et tu lui dis, donnez-moi ces trucs parce que j'ai beaucoup à me faire pardonner d'elle et tout. D'ailleurs, enfin, et genre pourquoi l'ambassadrice d'un seul coup, elle ferait. Oui, t'as raison. T'es un salaud. Donc je vais te donner les informations ultra confidentielles que dont tu as besoin pour la sauver.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai,
c'est très très étrange comme. Tu vois, faut vraiment.
C'est un peu tiré par les cheveux. Ouais.
Ah oui, il faut faire des rillettes, mais pas plus des rillettes de mammouth, quoi.
En fait, l'aspect cohérent de ça, il vient du fait que toi, ton secret, tu l'as depuis le début de la partie dans ta fiche. Donc c'est plus.
Et que toi, tu le connais.
Tu le connais. Donc depuis le début.
Toi, tu connais. Attends, Antoine connaissait
son secret.
Globo
connaissait le secret de son personnage. Et donc depuis le début de la partie, tu l'envisages dans ta
mais
dans ta
oui,
réflexion.
C'est ça. Ça
et
fait
donc,
partie de ton brainstorm.
Ça fait partie de sa création de personnage.
Et de
en fait. Ça fait partie de son brainstorm depuis le début.
Ouais.
Et qu'on le mette en jeu ou pas, qu'on le dévoile ou pas à un moment, il existe et qu'il soit mis en scène ou pas.
Et le moment où il sera dévoilé, j'ai le sentiment que le joueur va être un peu... C'est pas qu'il va être ludiste, mais c'est comme ce qu'Adrien...
Moi, je l'ai été.
Faire en sorte que ce soit le mieux utilisé, le mieux employé possible, à un moment ultra cohérent, et qu'il ait le droit de se vanter, pour reprendre un terme...
Je pense qu'on peut le faire pour plein de raisons différentes.
Tu vois, il a le droit de se vanter, de dire, regardez la manière dont j'ai utilisé mon son.
Moi, dans ce cas-là, j'ai été ludiste parce que j'avais envie de tenter de sauver ce PNJ-là.
Enfin, instrumental plutôt que ludiste.
Ouais. Instrumental peut-être.
C'est une utilisation instrumentale de cet élément de jeu-là. Ok. Ouais. Et donc.
Et Antoine, ton sombre secret, tu ne l'as pas révélé.
Et alors, donc, il restera éternellement à l'intérieur de la tête d'Antoine.
Tout comme les premiers. Les secrets qu'on n'a pas mis en jeu ont été brûlés. Comme durant le cadre de la partie, je n'ai pas ouvert mon dossier administratif, je n'ai pas dévoilé mon secret, il doit rester secret définitivement.
C'est-à-dire que même un podcast de la cellule ne peut pas te faire passer aux aveux.
Bah, si on respecte les règles du jeu, non.
Voilà.
C'était quoi ton sombre secret?
Non, le dis pas.
Bah, écoute, tu sais garder un secret?
Le dis pas.
Ah, moi aussi. Hein.
Ouais, ah non, mais c'est bien. Très bien, très bien.
Et voilà.
On ne saura donc pas le sombre secret d'Antoine.
Jürgen.
Et donc, comme ça, on a fait le tour du fonctionnement du jeu.
Sachant que la fin du jeu n'est pas, il y a rien qui c'est une question du début aussi qui établit quand le jeu va finir. C'est juste à un moment donné quand
ça devient plus possible quoi.
Il y a eu des sombres secrets, trop de personnages sont leur couverture est complètement grillée, il y a plus de moyens d'action. On voit bien que ça mène vers une fin quoi. Mais par contre c'est vrai que il y a ton personnage à toi et aller au bout entre guillemets de ses secrets, de se dévoiler pour cet objectif là. Mais typiquement le mien on était à un moment encore en transition de fonctionnement, mais ça pourrait être encore le début de ses aventures entre guillemets quoi. C'est-à-dire que il y a eu des événements compliqués, mais la fin de la partie peut tout à fait être à un moment donné où le personnage en est à un stade où il dit bon bah il s'est passé des trucs, mais le mien c'était vraiment bon, il y a eu des gros conflits avec mon superviseur, il a failli me tirer dessus, moi je l'ai engueulé pour savoir où était ma sœur, parce que j'avais compris que c'était des mecs de l'ambassade américaine qui avaient kidnappé ma sœur, je voulais savoir pourquoi, c'était le gros merdier, mais ça a fini par bon, on fait table rase et on reprend le boulot, mais sur des bases différentes quoi.
D'accord. Ton bilan à toi Antoine sur le jeu?
Mon bilan, alors je partage tout ce que disait Globo tout à l'heure, moi je serais quand même un peu plus sombre, je pense que ça m'a moins plus dans l'ensemble que toi, j'ai eu beaucoup de mal à... Mais en fait, c'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus maintenant, c'est que c'était un peu similaire à ce qu'on avait eu sur... aux marches du pouvoir.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, dans les jeux où il faut beaucoup raconter avec pas suffisamment d'aide ou pas suffisamment d'inspiration... Et éventuellement, en ayant une surcharge cognitive ou des backgrounds compliqués, je suis rapidement celui à la table qui, ce genre de difficulté, le subit le plus. Et j'ai tenu cette partie-là, et ça en valait la peine, et c'était effectivement un jeu intéressant. Mais en bilan global, le rapport bon moment-intérêt et moment laborieux n'était pas... C'était 50-50, quoi.
D'accord, ok, ouais. Alors que toi, Globo, tu dirais la...
Non, bah moi je me suis pas senti soutenu par l'auteur dans ce jeu-là. Ouais. Et ça me fait chier. Mais comme moi, j'aime bien le drama et l'ironie dramatique, je me suis bien fondu la poire.
Fabien,
j'appuie quand même l'idée que si t'es fan des romans d'espionnage, à mon avis, tu t'en sors.
Oui, c'est nécessaire, c'est sûr.
Ouais, c'est un prérequis pour savoir cadrer une scène type roman d'espionnage, pour en avoir lu. Faut avoir vu des films.
Mais c'est un peu pareil pour L5R, tu vois, ou n'importe quelle. N'importe quelle fiction.
C'est pour ça que je dis que pour moi, le jeu a une espèce d'exigence simulationniste, en un sens quand même. C'est que c'est compliqué d'y jouer efficacement. C'est une vraie difficulté si jamais c'est pas des univers que vous connaissez très bien, ou des types de fiction que vous connaissez très bien.
Une exigence à comprendre.
Et c'est vrai que
l'histoire,
encore plus, moi, ma démarche souvent, alors c'était un peu pareil sur Marche de Pouvoir, démarche à la cellule, c'est des gens proposent des jeux, et si le pitch à la base me tente, m'intéresse, je participe avec curiosité. Mais du coup, parfois, on se retrouve dans des jeux où les exigences sont fortes. Et donc là, c'est pas un problème du jeu en soi, si on est conscient de cette exigence. Mais là, pour moi, c'est un jeu où je ne m'estime pas suffisamment connaisseur du background historique, connaisseur des types de fiction, pour pouvoir imaginer à une vitesse et avec une richesse suffisante pour voilà. Dans ces jeux-là, j'ai très vite un complexe de...
Rendre la partie intéressante.
Voilà, c'est ça. Ça fait 10 secondes que j'ai un blanc et les autres attendent que je parle, machin. Et je suis en difficulté. Alors là, ça s'est passé quand même. Donc j'étais content, mais ça sentait. Je pense que j'étais. Alors je sais pas si vous de votre côté vous avez senti.
Non, moi j'ai pas eu de problème avec. Enfin, moi je comprends que sur ces jeux où il y a beaucoup d'improvisation, il peut y avoir des blancs et il faut laisser le temps aux autres joueurs de prendre leur temps, de réfléchir à ce qu'ils ont envie de dire. Donc moi ça fait partie de ce que j'attends à ce genre de partie. Je suis pas désagréablement surpris. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que moi je suis pionneux. J'y viens parce que Fabien dit « Tiens, il reste une place, ce serait bien qu'on en ait un dernier. » Mais je suis... Enfin voilà, je me dis « Bon, allez, après tout, je suis à la cellule, testons des trucs, mais je suis pas spécialement dans le trip au départ. » Et en fait, les gens qui s'étaient inscrits et qui étaient bien dans le trip, ils ont en grande partie pas pu venir. Ouais. Et je me retrouve tout seul à la table avec Antoine et Fabien, tu vois. C'est rigolo aussi, ça. Mais... Donc moi, j'étais pas spécialement intéressé par l'environnement du jeu ou ce qu'il propose, le trip espion, etc.
D'accord. Très bien.
Ben voilà.
Fabien, tu avais une...
Non, mais ça correspond aussi à l'expérience que j'ai eue.
Mais je trouve ça assez intéressant de voir que toi qui commences à quand même, mine de rien, avoir pas mal roulé ta bosse sur les jeux de Ron Edwards, de voir aussi qu'il y a, comment dire... Il y a quelque chose, enfin, les jeux d'auteur, c'est pas que des jeux sur lesquels, par exemple, il y aurait une thématique qui traverse. Ça peut être aussi formel, structurel. Oui. Là, en fait, Ron Edwards, il y a une patte Ron Edwards dans la manière dont il fabrique ses jeux.
Ouais.
Il y a quelque chose de structurel, en fait. Tous ces jeux, ils ont une espèce de structure commune. Un jeu d'auteur, c'est pas forcément un jeu dont le propos est toujours un propos cher à l'auteur ou similaire à l'auteur. Ça peut être aussi structurellement aussi une façon de construire des jeux qui est propre à Ron Edwards. Et moi, c'est ce qui m'a...
J'espère qu'on pourra parler d'autres jeux. J'aimerais beaucoup pouvoir parler de Circle of Hands, qui est un jeu plus récent, qui date de 2015.
Mm-hmm. De Ron Edwards aussi.
De Ron Edwards, ouais. Il y a un autre jeu qui s'appelle Troll Babes, dont le concept c'est que on joue des
trollesses.
Ouais, des trollesses qui font 2 mètres, qui sont super badass, qui ont des grandes cornes et qui vont de village en village.
Voilà, c'est Ron Edwards.
Et moi j'ai vaguement lu Sorcery aussi de...
Alors Sorcerer, ouais.
Sorcerer. Ouais. Et c'est pareil, j'ai le sentiment que Sorcerer, il te livre bien à toi-même. Hein.
Alors Sorcerer, je vais te dire, ça fait longtemps que j'aimerais le faire jouer à la cellule parce que c'est quand même genre le grand ancien de
Ron Edwards.
Et en fait, à la lecture, je ne me vois pas le faire jouer, si tu veux. J'ai l'impression que c'est une telle machine usine à gaz. Et puis
c'est pareil, moi j'ai vraiment le sentiment que Ron Edwards il soutient pas ses joueurs, quoi. C'est un peu démerde-toi, t'arriveras peut-être à en faire un truc cool, quoi.
Très intéressant. Merci Globo, merci Antoine,
merci Fabien, bye bye.
À très bientôt tout le monde, portez-vous bien,
salut,
jouez bien,
salut.